Alors voilà mon sujet d'aujourd'hui, un peu original peut-être. Je vais vous parler de la sexualité telle que je peux la percevoir dans la Bible. Voilà. Quelques réflexions bien entendu, c'est un sujet tellement immense qu'il n'y aura que quelques réflexions. On peut éteindre peut-être pour l'image, que l'image soit meilleure là-bas. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez eh bien, un homme et une femme. Vous avez sûrement vu ces images. Pour les JO de Milan, Cortusa, c'est nos vainqueurs, médaille d'or, de patinage sur glace. Quand j'ai vu cette image, moi, cette présentation, ça m'avait un peu interpellé. J'ai dit, mais que c'est beau, que c'est beau. Et cette beauté, je pense, moi, j'ai fait le lien, cette beauté, c'est quelque part un peu de l'image de Dieu, la beauté. Et cette beauté apparaît à travers deux êtres, semblables et différents, un homme, une femme. Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Voilà, je pense pas. Hein. Bien heureusement. Bon. Donc voilà le plan de mon exposé. Il y a plusieurs points. Bon, une introduction, une définition rapide de la sexualité, l'origine de la sexualité, la détermination biologique du sexe, homme, femme égale image de Dieu, les dégâts du péché, le mariage, cadre sécurisé pour la sexualité, et puis glorifier Dieu dans le couple. Voilà en gros ce dont je vais vous parler. Alors c'est un thème qui est un peu compliqué, un peu risqué, parce qu'il est très chargé de toutes sortes de connotations qui sont souvent très négatives. Alors je vais essayer d'apporter une vision issue de ma culture personnelle, scientifique, et surtout de la Bible. Parce que le sujet est quand même largement abordé dans la parole de Dieu, hein. Ce n'est pas un tabou ni un repoussoir, bien que nous soyons tous très sensibles. Nous vivons dans notre monde déchu. Il est bien rare que nos vies n'aient pas connu des expériences douloureuses très négatives, même dans ce domaine, ce qui explique une réaction d'extrême méfiance. Je vous demande donc une attention bienveillante, et d'avance je sollicite votre indulgence pour les maladresses et votre pardon si je vous choque par quelques propos. Alors, définition. Alors, j'ai recherché sur Internet une définition. Il n'y en a pas de très bonne, mais bon, je vous livre celle-ci. La sexualité humaine est, selon l'OMS, donc c'est la définition de l'OMS 2006, un aspect central de l'être humain tout au long de la vie et comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés au genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le désir sexuel, le plaisir, l'intimité et l'amour et la reproduction. Oui, c'est une belle liste. Oui, il y a à peu près tout, quoi. Dans cet exposé, je m'efforcerai de cerner le sujet d'un point de vue plutôt fondé sur les déclarations de la Bible. Alors, l'origine de la sexualité. Bon, vous vous en doutez, je pense, la sexualité trouve son origine dans la création initiale de la vie. Le troisième jour pour la vie végétale, le cinquième pour la vie animale, marine et les oiseaux, et le sixième pour la vie animale terrestre et l'homme. Alors, regardons ces diapositives. Je vais vous lire le texte, qui est le texte fondateur. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Un peu plus loin, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Un peu plus loin, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc, voyez, selon leur espèce, c'est répété comme un leitmotiv. C'est très important. Toute cette vie primitive doit se multiplier pour remplir la terre. Il est bien spécifié à 8 reprises dans les premiers versets selon son espèce. Alors, quel est le processus prévu pour pouvoir remplir ce mandat divin? C'est très majoritairement la reproduction sexuée, l'union entre un individu mâle et un individu femelle. En effet, la sexualité n'est pas l'apanage de la seule espèce humaine, mais la plupart des êtres vivants sur la Terre. Les autres processus, il y en a, sont la reproduction végétative, par bouturage par exemple, ou encore la parthénogenèse, c'est une duplication des individus mères qu'on trouve chez les pucerons par exemple. Mais ce sont des phénomènes très minoritaires, en dehors du monde microbien qui est un peu spécial. Voilà. Alors quel est l'intérêt de la reproduction sexuée? Voici quelques brèves notions de biologie s'appuyant sur le cas le plus général. Le passage à la génération ultérieure, ce qu'on appelle la reproduction, c'est la transmission d'un patrimoine génétique depuis les parents, mâles et femelles, jusqu'à un enfant. Ce génome, donc, est composé de longues molécules d'ADN regroupées en filaments appelés chromosomes. Alors, je vous montre à l'écran des chromosomes. Voilà les chromosomes de l'homme. Et de la femme, parce qu'il y a un « ou ». Vous voyez qu'il y a des différences à ce niveau-là. Chaque individu de l'espèce possède dans les noyaux des cellules de son corps un ensemble de 2N chromosomes, donc 23 paires chez l'homme. La moitié N provient du père, l'autre moitié de la mère. La moitié vient du spermatozoïde, l'autre moitié de l'ovule. Les cellules sexuelles, appelées gamètes, sont particulières, car ne possédant que N chromosomes. Leur fusion, lors de la fécondation, engendre un organisme fils normal à 2N chromosomes. Il est donc indispensable que dans les gamètes, fabriqués à partir d'un corps qui est diploïde, qui a 2N chromosomes, la quantité de chromosomes soit divisée par 2, pour devenir N. L'opération se passe dans les gonades, testicules ou ovaires. C'est un processus absolument fondamental et d'une importance majeure, appelé méiose ou réduction chromatique. La cellule souche à 2N chromosomes se divise en 2 cellules filles possédant N chromosomes. Le partage en 2 du génome se produit aléatoirement, c'est ça qui est le mot important, entre les chromosomes d'origine paternelle et ceux d'origine maternelle. C'est ce que bien des auteurs appellent la loterie génétique. Ainsi, l'enfant possède des caractères issus de ses deux parents, il leur ressemble tout en étant bien différent. Alors la justification biologique de la sexualité dans le règne végétal et dans le règne animal, c'est bien le maintien d'une variabilité génétique permettant la succession des générations en garantissant une bonne adaptation et en minimisant la dégénérescence. C'est donc un moyen très efficace voulu par le Créateur. À partir de cette variabilité, par un processus de sélection naturelle ou artificielle, sont nés au sein des espèces différentes races, les races humaines, les races de chiens, les races des vaches, cultivars de blé, de maïs, etc. Alors, d'autres processus aussi existent, tels que la recombinaison des chromosomes, qui complètent la loterie génétique. Mais le principe général n'est pas remis en cause. Le but de vie des espèces, ce qu'en philosophie on appelle la téléonomie, c'est un mot un peu compliqué, le but fondamental de la vie, c'est de durer, de propager leurs gènes, conformément aux injonctions du Créateur. Alors, le déterminisme biologique entre le sexe masculin et féminin est bien connu. Nos chromosomes paternels et maternels se ressemblent beaucoup. Hein, vous voyez le karyotype. Hein. Et il est relativement facile, en observant au microscope un noyau de cellules, de repérer les paires de chromosomes numérotés 1 à 22. Toutefois, chez le mâle, les chromosomes ne sont pas appariés. Il s'agit des chromosomes dits sexuels, nommés X et Y. Chez la femelle, en revanche, ils sont bien une paire X. XX, voilà. Un ovule possède donc toujours un chromosome X. Un spermatozoïde peut être X ou Y. Une fécondation XX donne un embryon femelle. Une fécondation XY donne un embryon mâle. L'homme possède un chromosome mâle et un chromosome femelle. La femme possède deux chromosomes femelles, en simplifiant. Alors, à partir de cette caractéristique biologique, on peut comprendre que la femme peut venir de l'homme, mais pas l'inverse. Petite parenthèse. Certains exégètes interprètent le verset 27, que vous allez voir bientôt. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, donc ça dans la version Darby. Certains exégètes interprètent ce verset comme la création d'un seul homme masculin au départ, mais possédant en lui-même la partie féminine aussi au sein de son kit chromosomique, XY. Il semble en effet que l'homme soit resté seul un certain temps avant la création de la femme. Voilà donc le fondement biologique de la sexualité qui est globalement très général dans le monde vivant. Toutefois, pour l'espèce humaine, la Bible nous apprend que la sexualité possède une dimension psychologique et spirituelle qui dépasse largement ces considérations purement biologiques. La création de l'homme est spéciale et originale, et celle de la femme plus encore. Donc, regardons ces versets, dont je vous ai déjà lu le premier. L'homme créé à l'image de Dieu, mâle et femelle. Puis un peu plus loin, Genèse 2. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Vous voyez, ces versets sont très connus dans la Genèse, mais ils sont quand même assez mystérieux. Nous avons un exemple d'une anesthésie générale. Après, bon, Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est quand même la première anesthésie générale. Je vous ai montré deux images qui sont connues. La création de l'homme selon Michel-Ange. Alors, vous avez remarqué qu'il a, cet homme-là, il a une particularité qu'il ne devrait pas avoir. Il a un nombril. Un nombril, ça se fabrique quand on est à l'accouchement, quand on sépare le bébé qui vient de naître du placenta. Mais là, bon, Dieu peut créer même un nombril à quelqu'un qui n'en a pas eu besoin. Dieu crée l'apparence d'âge, il a créé un homme adulte, il peut très bien créer un homme avec un nombril, on ne va pas contester Michel-Ange. Voilà. Bon, pour la création de la femme, j'ai trouvé une espèce de bas-relief, là, mais bon, ça figure assez naïvement l'anesthésie générale et la création de la femme. Alors Dieu possède de nombreux attributs. Il exprime dans une dimension à la fois infinie et parfaite. Des attributs qu'on pourrait qualifier de plutôt masculins, comme la force, la rigueur, la logique, d'autres plus féminins, tels que la beauté, la tendresse, la douceur. Dans la création à son image, qui reflète donc ses traits, Dieu a réparti ses attributs sur l'homme et sur la femme, deux êtres complémentaires. C'est la réunion des deux entités qui reflète au mieux l'image de Dieu. L'homme et la femme sont créés pour refléter ensemble dans le couple l'image de Dieu à travers leurs différences et leurs ressemblances. Par exemple, sur le plan physique, la force et la beauté de Dieu sont partagées entre Adam pour la force et Ève pour la beauté. Bon, je n'imagine pas Ève comme une guenon poilue dotée de bipédie, comme certains le voient. Elle devait être d'une extraordinaire beauté. C'était le chef-d'œuvre de Dieu, sa dernière création. L'attirance d'Adam a dû être magnétique, comme l'exprime le premier poème de l'humanité. « Chair de ma chair, os de mes os ». On pourrait dire que c'est le premier poème de l'humanité. Depuis l'origine des temps, la femme manifeste cette beauté de Dieu au sein de la création. Dans toutes les cultures, les peintres, les artistes peintres, les sculpteurs accordent une place majeure au corps de la femme. les musées regorgent de ces témoignages, rendus souvent malgré eux à la grandeur de notre Créateur. Alors certes, la définition de la beauté est bien subjective et elle a évolué dans le temps. Les canons contemporains de la beauté ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'époque de la Renaissance. Mais des invariants subsistent, notamment dans les proportions. Les esthètes discernent au sein du corps féminin des dizaines de proportions géométriques correspondant au nombre d'or qui exprime la perfection. Ce nombre fameux, nommé phi, qui vaut 1,618, c'est le sujet très intéressant de nombreux livres, de conférences, de diaporamas, etc. Et si vous avez du temps, je vous engage à regarder, c'est admirable, c'est intéressant. Donc ce nombre d'or, les Grecs le connaissaient bien, Polyclète, qui était un sculpteur grec ancien, Vitruve, qui était, je crois, un architecte romain, et Léonard de Vinci, qui a repris tout ça, et qui a étudié les proportions. C'est assez fabuleux ce qu'a fait Léonard de Vinci sur le nombre d'or. Donc la force et la beauté ne sont que deux exemples de caractères distinguant les hommes et les femmes. Alors, j'ai figuré dans un autre tableau quelques autres spécificités. Alors vous voyez en bleu plutôt ce qui est féminin, en rouge ce qui est plutôt masculin. Bon, spécificité, organe masculin, organe féminin, ça c'est évident. Puis la maternité et l'allaitement qui sont des fonctions qui sont uniquement féminines. Alors pour le reste, il y a un peu plus pour l'homme, un peu moins pour la femme. Les caractères sont partagés et très variables d'un point à un autre. Donc la taille et le poids, en général, l'homme est plus gros et plus lourd. La masse musculaire, l'homme, il y a des différences significatives. La masse graisseuse, qui est aussi plus abondante chez la femme, mais mieux répartie que chez l'homme, a priori. Ça participe à la beauté du corps féminin, d'ailleurs, très, très largement. La force physique, c'est plutôt l'homme. La vitesse, plutôt. L'endurance, oui, les femmes en général sont un peu plus endurantes que les hommes, mais bon, ça varie bien sûr suivant un gradient de l'homme à la femme. La souplesse, les hormones féminines, alors j'ai mis d'un côté les hormones féminines, les hormones masculines, parce que ça couvre énormément de caractères qui sont sous le contrôle des hormones. La voix notamment, le chant, toutes ces choses-là. Bon, la beauté, la douceur, l'intuition, la loquacité, oui, la loquacité. J'ai lu quelque part dans les statistiques que les femmes parlent 3 fois plus que les hommes. Une conversation téléphonique entre hommes, c'est 7 minutes, c'est 20 minutes et quelques entre femmes. C'est des statistiques, mais en fait, c'est une chose qui existe. Alors bien sûr, il y a des hommes qui sont beaux, et des hommes qui sont doux, et des hommes qui ont de l'intuition aussi, mais ce sont des caractères qui sont plutôt féminins quand même. La logique, on dit que c'est plutôt masculin, mais bon, c'est aussi quelque part partagé par beaucoup de femmes. Enfin, ce sont des pôles. Voilà. Donc, les 3 premiers de la liste sont particuliers. Ils correspondent au caractère sexuel primaire, les organes reproducteurs et la fonction de maternité-allaitement. Là, la différence est absolue. En ce sens, l'homme et femme sont rigoureusement différents et complémentaires, de façon à assurer la perpétuation de la vie. Les autres critères sont plus partagés. Alors c'est le dosage entre les caractères qui varie continuellement d'un pôle masculin à un pôle plutôt féminin. Il existe aux extrêmes des hommesses et des femmelettes. Des femmes très masculines, des hommes efféminés. Mais ce n'est pas la règle. Dans ce sens, certains auteurs parlent de supplémentarité entre les hommes et les femmes. Plutôt que complémentarité, c'est un peu plus riche. Dans l'addition harmonieuse de ces attributs au sein du couple. C'est le sens de l'expression « une aide qui soit son vis-à-vis » ou encore « une aide semblable à lui », »,« une aide qui lui corresponde » selon les traductions. L'homme et la femme sont à la fois semblables et très différents. Remarquons que dans le monde animal, ces différences qu'on appelle dimorphisme sexuel varient beaucoup dans leur expression. Quelquefois le mâle est très coloré, la femelle très discrète, ou bien c'est l'inverse. Quelquefois la différence d'apparence est imperceptible. Certains animaux, il faut un vétérinaire pour déterminer le sexe. Bon, j'ai figuré un couple de moineaux. C'est un oiseau bien sympathique. Vous voyez, le mâle est assez différent de la femelle. La femelle est plus terne. Le mâle a des couleurs blanches ou noires sans jabot. Et le moineau, il faut savoir qu'il est monogame aussi, le moineau. Alors, Dieu est trinitaire. trois personnes en un Dieu. Trois personnes communiquant entre elles. Depuis toute éternité, dans une relation d'amour parfaite. Dieu est relationnel. Alors, quand il a créé l'homme et la femme à son image, il a voulu aussi instiller cette dimension relationnelle. Cette communication homme-femme, l'amour au sein du couple, reflète celle qui existe depuis toujours au sein de la Trinité. Pour certaines espèces, les ours blancs par exemple, la rencontre mâle-femelle est éphémère. Le temps de l'accouplement, ensuite, chacun poursuit sa vie solitaire. Et ce n'est pas le cas pour l'espèce humaine, où la sexualité outrepasse très largement l'impératif biologique de la reproduction pour devenir un moteur essentiel à toute la vie sociale et un ressort majeur de la psychologie humaine. Je pense aux travaux de Freud qui a remis ça en évidence au début du XXe siècle, l'influence majeure de la sexualité sur nos psychologies. Alors attention, à ce point de l'exposé, je dois brièvement évoquer le célibat. Non pour l'exclure du thème de la sexualité, mais pour signaler qu'en dehors du cadre général du couple, certains hommes et certaines femmes, pour diverses raisons, choisies ou subies, décident de renoncer à ce type de relation. Ils ne sont pas pour autant exclus des bénédictions de Dieu, si ce n'est bien sûr pour la procréation. L'apôtre Pierre était marié, l'apôtre Paul était célibataire, et leurs vies ont été tous les deux riches et précieuses pour le Seigneur. Alors je vais vous parler des dégâts du péché. La création achevée, Dieu lui-même l'a jugée comme très bonne, y compris la sexualité, bien sûr. Rien n'altérait la communion entre Dieu et ses créatures, rien ne perturbait la relation entre Adam et Ève. Par exemple, en Genèse 2, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Hélas, cette situation paradisiaque n'a pas duré. L'irruption de l'iniquité et du mal a brisé cet état. Vous connaissez tous le récit de la chute et de l'intrusion du péché dans le monde. Sous la forme d'un serpent, Satan a tenté Ève, qui a mangé du fruit défendu, et Adam a été son complice. L'Esprit de Dieu qui régissait leur vie s'est retiré. Désormais, c'est l'Esprit de l'homme, livré à lui-même, qui régit leur personne. Et par là, ceci par l'emprise directe des sens. Le changement psycho-spirituel est énorme. Certains auteurs ont même dit que c'est à ce moment-là que l'inconscient a été créé dans l'homme et la femme. S'ils n'auraient pas pu supporter toute la charge qui venait de leur sens, etc. Poursuivons le texte. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui se promenait dans le jardin, au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, et car je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ce récit paraît anodin, mais ses conséquences sont énormes sur toute l'humanité. L'innocence initiale se transforme en honte. Le corps physique d'Adam et Ève a-t-il changé ? Ben non. Non. C'est le regard qui a changé. L'absence de honte révèle une parfaite communion, une absence totale de domination, une absence d'appropriation. Le regard de l'autre n'était pas prédateur. La nudité n'était pas vulnérabilité dangereuse, mais confiance absolue. Le péché introduit la convoitise, le désir de possession, la rivalité, la comparaison, l'objectification. Le corps cesse d'être signe de communion. Il devient potentiellement objet d'appropriation. La pureté originelle de la sexualité est ainsi corrompue par le péché. Les conséquences, vous les connaissez bien sûr, hein. C'est Dieu qui a quelque part maudit Adam et Ève, hein, déjà chassés d'Éden. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'était la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » La sentence est sévère, à la mesure de la gravité de la faute, de la volonté d'émancipation et d'indépendance de Dieu, qui est concrétisée par la première désobéissance. Attention, la faute d'Adam et Ève n'a rien à voir avec la sexualité, comme prétendent certains interprètes. Dieu doit rompre l'intimité qui régissait ses rapports avec le premier couple humain. Mais son amour ne cesse pas pour autant. Il manifeste même une délicate attention envers ses créatures. Nous lisons, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Remarquez que Dieu ne désapprouve pas la réaction de pudeur d'Adam et Ève, qui se sont confectionnés des ceintures de feuilles de figuier. Première tentative humaine pour gérer la honte. Il ne dit pas « Ce n'est pas grave, restez nus ». Il ne dit pas non plus « Débrouillez-vous avec vos feuilles ». Bien au contraire, il la valide totalement en proposant un vêtement plus solide et plus pérenne en peau de bête. Il les couvre lui-même. Et c'est un acte de grâce. C'est aussi le premier sacrifice d'un animal, accompli par Dieu lui-même, et préfigurant ceux de l'alliance du Sinaï, et au-delà, le sacrifice suprême de Jésus-Christ, destiné à restaurer parfaitement la relation entre le Créateur et ses créatures humaines. Le péché a produit une conscience troublée, une perte d'innocence, une nouvelle perception du corps. Avec le péché, la honte est entrée dans le monde, et avec elle, le besoin de se couvrir. La pudeur est désormais un moyen de protection de la dignité humaine. Alors, depuis la chute, peu de domaines ont été aussi investis par Satan que celui de la sexualité. La théorie du genre renie les plans de Dieu. La pornographie et l'impudicité explosent sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc. La pédocriminalité alimente quasi quotidiennement nos actualités. Les jeunes gens sont particulièrement menacés. Leur vision de la sexualité peut être complètement déformée, ce qui compromet leur avenir conjugal et leur bonheur. Il importe de les préserver de ces souillures, par tous les moyens possibles, et de les orienter vers la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut leur apporter le salut et une juste vision des relations homme-femme. Vision qui glorifie le Créateur et qui leur offre des perspectives stables et réjouissantes. Le mariage, cadre sécurisé pour la sécurité, pour la sexualité. Genèse 2, 24, donc c'est avant la chute, il est écrit « C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. » Donc bien avant la chute, juste après la création de la femme, que Dieu a institué le mariage. C'est une ordonnance universelle qui concerne toute l'humanité et qui est assimilée dans toutes les cultures du monde. La séparation avec les parents implique la création d'une nouvelle unité familiale, où peuvent s'exprimer la complémentarité, la relation, la fécondité. Le mariage implique la fidélité entre époux. L'unité du couple explose si l'un ou l'autre se livre à des relations extra-conjugales. Les ravages sont considérables, car la confiance réciproque est un fondement de l'épanouissement dans la sécurité. En effet, la sexualité très bonne, voulue par Dieu, ne peut se développer harmonieusement que dans ce cadre conjugal, pour devenir une source de bonheur pour l'homme et la femme, mais exclusivement dans ce cadre conjugal. En effet, suite à l'intrusion de l'iniquité et du péché dans le monde, Dieu n'a pas abandonné sa création. Il s'est choisi un peuple pour établir sa relation avec les hommes, et par son serviteur Moïse, il a donné sur le mont Sinaï un mode d'emploi, destiné à toute l'humanité, hein, les 10 commandements. gravé dans la pierre et qui exprime les recommandations du Dieu saint pour un fonctionnement harmonieux des sociétés humaines. Deux de ces commandements concernent directement le mariage et la fidélité entre époux. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est clair et net. Puis tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien qui lui appartienne, donc pas sa femme non plus. Vous voyez, deux fois, on parle dans les 10 commandements de cet aspect de sexualité. Une bonne partie du chapitre 18 du livre du Lévitique avertit contre les dangers de l'inceste. Bon, c'est un peu une déviation de la sexualité. Je ne vais pas les lire. Le livre des Proverbes fourmille de mise en garde concernant le bon usage de la sexualité et le danger de l'adultère. Si vous voulez, les proverbes de partout, méfiez-vous de la femme étrangère, etc., etc. Je vais citer 2 proverbes seulement. Proverbe 18, 22. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui accorde. Puis Proverbe 6, 32, 33. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Oui, la Bible est catégorique sur ces points-là. Hein. Et pas moitié-moitié, hein, c'est entier. Un autre livre de l'Ancien Testament a pour objet quasi exclusif la relation amoureuse entre un homme et une femme. Et il s'agit du Cantique des Cantiques. Alors, ce livre était controversé, son maintien dans le canon biblique, notamment, était très controversé. Surtout, ça s'est passé surtout à l'époque, au 1er siècle après Jésus. Il y avait des rabbins, il y avait des grandes discussions. Là. C'était controversé car son contenu, souvent érotique, carrément, hein, dans la langue d'origine, il faut voir ce que ça peut être. Nous, on a des versions complètement édulcorées. Hein. Ce contenu peut choquer ou bousculer une certaine pudibonderie. Hein. Pourtant, son interprétation spirituelle, qui est complexe, peut être très enrichissante, mais c'est vraiment complexe. Il ne faut pas non plus chercher à tout prix à faire des allégories de l'Église, ça ne tient pas trop la route non plus. Hein. C'est compliqué, mais enfin, je ne m'aventurerai pas dans ce livre. Mais je vous engage à le lire. Voilà. Le Nouveau Testament n'est pas en reste. Il prolonge et confirme les affirmations de l'Ancien Testament. La sexualité est souvent évoquée dans les évangiles et dans les épîtres. Jésus lui-même en a parlé. Par exemple, en Matthieu 5, 27-28, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui, la barre est passée très haut, hein, par Jésus. Les apôtres Pierre et Paul évoquent dans leur récit la place de la sexualité, la position des hommes et des femmes, notamment au sein de l'Église. Alors ce sujet mériterait un long développement qui dépasse le cadre de mon exposé d'aujourd'hui. On ne parlerait pas aujourd'hui. Alors en conclusion, glorifier Dieu dans son couple. Nous avons vu qu'au sein du couple marié, l'homme et la femme reflètent par la complémentarité de leurs attributs l'image glorieuse du Dieu créateur. La sexualité, par ses aspects biologiques et relationnels, est un don de Dieu répandu sur toute l'humanité. Sa portée est immense au sein des sociétés humaines et des civilisations, depuis l'origine des temps et jusqu'à la fin. Au plan symbolique, cette union homme-femme est tellement forte que Dieu s'en inspire pour illustrer le lien d'amour qui existe entre Christ et l'Église. Et l'apôtre Paul parle là d'un grand mystère. Je ne sais plus vous le projeter, mais enfin, je vais vous le lire. Dans Éphésiens 5, 25-35. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. » Citation de Genèse. « Il y a là un grand mystère, » dit Paul. C'est quelque chose de très profond, de très grand. Voilà. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Et nous retrouvons cette idée de Christ et l'Église, cet amour de Christ et l'Église, ce rapprochement. À la fin des temps, dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, versets 7 et 8, « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et lui a été donné de s'habiller d'un pelin pur éclatant. » Sur cette comparaison, il n'est plus question directement de sexualité, mais d'amour. D'amour profond, d'amour entre Christ et l'Église. Alors, l'histoire de l'humanité a commencé par le mariage de nos premiers parents, mariage qui illustre l'union entre Christ et l'Église. Et cette histoire se terminera aussi par un mariage dans la gloire des noces de l'agneau. Retenons que la sexualité est belle et bonne, et qu'elle a été voulue par Dieu pour le bonheur de ses créatures, mais seulement dans le cadre défini de l'alliance, de l'attachement réciproque et de la fidélité au sein du mariage. Amen.